Élise, ce matin, on accueille Raphaël Jérusalemi, l'ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, pour ce à la une en Israël. Et il y a tellement de sujets que je vais vous laisser nous dévoiler celui dont il va être question, ou ceux dont il va être question maintenant.
On va commencer par parler de l'intensification des combats dans la bande de Gaza. Raphaël Jérusalemi, bonjour.
Bonjour.
Alors donc, frappes aériennes toute la nuit, les Palestiniens signalent que l'armée israélienne a de nouveau largué des tracts pour évacuer Khan Younes. Comment ça se passe cette opération char de Gédéon sur le terrain, Raphaël?
Alors, on en est encore aux préparatifs de la vraie opération. Ça se déploie dans plusieurs zones à la fois, nord, centre et sud de la bande de Gaza, pour accueillir et laisser venir des troupes encore plus massives qui seront du nombre de 5 divisions, incluent une forte présence des blindés. Je rappelle que le nouveau chef de l'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, est un homme des blindés, un homme des tanks, et qu'il les utilisait beaucoup, ainsi que l'artillerie terrestre, en se basant un peu moins sur l'armée de l'air que ses prédécesseurs. Cette opération de grande envergure semblerait avoir pour but, d'après le chef de l'état-major, une pression militaire pour la libération des otages. On voit que pour l'instant, cette pression ne marche pas, puisque le Hamas a refusé la dernière offre en date des Américains pour une libération partielle des otages. Et donc, pour l'instant, j'aimerais avoir tort et espérer que cette pression militaire marche. J'ai mes doutes et je ne suis malheureusement pas le seul parmi les anciens officiers de Tsahal à avoir des doutes sur le bien fondé de cette opération militaire.
Alors, Adam Boehler, le conseiller de Donald Trump, justifiait justement en disant qu'il pensait que la pression militaire aidait. Et puis, il y a évidemment bien d'autres opinions contraires. Vous venez de le rappeler, Raphaël Jérusalemi. Pourquoi continuer les négociations si on est dans l'impasse?
Alors, on pense, la raison pour laquelle le gouvernement israélien laisse son équipe de négociateurs au Qatar pour l'instant, c'est dans le vague espoir, malgré tout, que le Hamas va réfléchir. Je pense que c'est une erreur psychologique. Nous avons affaire à une faction terroriste fanatique, djihadiste, qui ne pense pas rationnellement. N'importe quel autre adversaire, rival militaire qui a un peu de cervelle comprendrait qu'il y a ici une détermination politique israélienne de rentrer dedans, si je puis dire, de lancer une immense offensive qui ne peut que se mal terminer, à mon avis, pour tout le monde, mais spécialement pour le Hamas. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas affaire à un partenaire rationnel, quelqu'un avec qui, d'ailleurs, on peut se fier. D'ailleurs, on ne sait même plus qui dirige le Hamas aujourd'hui. On a déjà éliminé beaucoup de dirigeants. Lorsque le Hamas demande des garanties si un accord est atteint pour un cessez-le-feu, nous ne savons pas, nous, quelles garanties nous avons qu'il soit respecté. Nous sommes effectivement dans l'impasse.
Alors justement, pour parler des dirigeants du Hamas, il y a toujours un point d'interrogation, Raphaël, sur la mort de Mohamed Sinwar. Ce matin, Osama Hamdan, l'un des hauts responsables du Hamas, disait que ça n'était pas vrai, qu'il n'était pas mort et qu'il continuait de combattre contre les Israéliens. Hier, Israël Katz, le ministre de la Défense, avait l'air de dire qu'il y avait de plus en plus de chances qu'il ait été éliminé. Est-ce qu'on a des informations là-dessus?
Alors, on ne peut pas confirmer à 100% qu'il soit décédé. Une chose est certaine, s'il était présent sur le lieu qui a été bombardé, il n'a pas pu s'en sortir vivant. Personne n'a pu s'en sortir vivant, vu le nombre d'explosifs qui ont été largués sur cet endroit. On ne voit pas non plus qu'il donne un signe de vie. Donc, toutes les chances seraient qu'il soit décédé. Mais malheureusement, il faut attendre une preuve tangible pour pouvoir l'annoncer officiellement.
Alors, hier soir est arrivée l'annonce du premier soldat mort dans le nord de la bande de Gaza dans cette opération char de Gédéon, Youssef Yehuda Irak, et il était âgé de 22 ans. Et forcément, la question que tout le monde se pose, Raphaël, c'est, et vous parliez de 5 divisions tout à l'heure et d'une opération majeure avec des blindés, est-ce qu'on va encore perdre beaucoup de soldats dans cette opération militaire ?
J'en ai bien peur, car comme je l'ai dit, le Hamas étant fanatique, il va continuer, il ne veut pas admettre sa défaite, parce que militairement, le Hamas doit être en fait une armée qui a perdu. Et c'est ça, toutes les poches de résistance qui demeurent ne sont là que pour justement tuer les soldats israéliens, et ne peuvent plus espérer l'emporter sur aucun plan stratégique. Et donc, effectivement, pour moi, le grand drame qui va se jouer maintenant, c'est effectivement la perte de vie de soldats israéliens, qui pour moi, évidemment, prend la précédence sur toutes les autres pertes regrettables, évidemment, de civils, de part et d'autre, etc. Mais pour moi, ce qui est vraiment terrible, c'est cette perte de jeunes soldats et soldates israéliens, si elle est en vain, si elle est gratuite, c'est-à-dire si on n'arrive pas atteindre l'objectif.
Alors, on a trouvé dans un des tunnels du Hamas une lettre manuscrite signée par l'otage Matan Zangoker, et sa mère a également appelé à la fin de l'opération et au retour de tous les otages. Ce qui était inquiétant, c'était l'endroit où ça a été trouvé, Raphaël.
Oui, c'est un endroit où des otages ont été tués dans un tunnel. Alors, était-il avec eux et on n'a pas retrouvé son corps, ou a-t-il été déplacé avant l'incident d'après lequel d'autres otages ont été retrouvés, donc assassinés par leur détenteur. C'est inquiétant. Le chef de l'état-major de Tsahal l'a dit déjà depuis un mois, lorsqu'il a annoncé l'opération qui va être menée maintenant, que c'était dangereux pour les otages. Cette opération est dangereuse pour les otages, mais c'est le risque qu'ils considèrent qu'il faille prendre pour tenter de les libérer, peut-être même d'atteindre certains endroits où ils pourraient se trouver, en espérant évidemment les en sortir vivants. Il y a ici un danger évident. Ça évite beaucoup de fois de bombarder certaines cibles parce qu'ils ont les informations qu'il y aurait peut-être là des otages qui sont détenus, surtout lorsque ce sont des cibles comme le frère de Yair Sinwar la semaine dernière, des cibles de gens très importants du Hamas, parce qu'ils s'entourent évidemment de ces otages comme boucliers humains. C'est un risque à prendre, mais comme nous l'avons dit, les négociations sont coincées. Le Hamas refuse absolument toutes les propositions qui sont mises sur la table. Quelles que soient les critiques qu'on peut adresser aux Qataris, aux Égyptiens ou même aux Israéliens, l'obstacle principal, c'est le Hamas qui s'obstine, qui prétend vouloir la fin de la guerre, mais en fait ne veut pas, parce que la fin de la guerre, c'est aussi la fin du Hamas.
Ma dernière question, Raphaël Girouzalmi, ça sera sur l'aide humanitaire, un sujet qui évidemment est lié, mais qui surtout joue beaucoup sur l'opinion internationale. Les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et du Canada ont publié hier une déclaration commune pour condamner la gestion par Israël de la situation humanitaire à Gaza. Et plusieurs pays, comme la Belgique, pourraient aussi se joindre à cette déclaration. Comment ça se passe sur le terrain ?
Alors, d'une part, nous nous fichons éperdument de l'avis de pays étrangers qui ne comprennent rien à l'affaire. Ce qui compte pour nous, c'est notre avis à nous, sur nous-mêmes. C'est le besoin moral, humanitaire, évidemment, des Gazaouis, mais c'est aussi, sur le plan militaire, absolument important d'avoir cet approvisionnement, ce ravitaillement. C'est en fait Tsahal qui a dit au gouvernement israélien « il faut réapprovisionner Gaza » en nourriture, en médicaments. Nous ne voulons pas d'avoir sur les bras, je le dis en plus du plan moral et humanitaire, sur le plan stratégique, quelle utilité avons-nous d'avoir une crise humanitaire sur les bras et de voir des civils innocents mourir de faim. Donc nous n'avons aucun intérêt, je n'ai absolument aucune leçon à recevoir des Canadiens, des Français, de qui vous voulez. Les Israéliens ont leur morale à eux, le peuple israélien ne veut certainement pas affamer les Gazaouis. c'est de la propagande antisémite de bas étage, c'est ridicule, et donc de toute façon ce ravitaillement aura lieu. Le principal, c'est de s'assurer que le Hamas ne puisse pas s'accaparer ces convois de ravitaillement. On essaye maintenant plusieurs solutions avec des sociétés privées, avec des ONG qui veulent bien le faire, d'effectuer cette opération. La chose principale, c'est qu'il est hors de question que les soldats israéliens risquent leur vie pour ce genre de ravitaillement. Ils sont là autour, là où il y aura des ravitaillements, dans ces zones où les camions vont arriver. Et la salle va assurer autour la sécurité, mais ne va pas pénétrer dans ces zones et risquer la vie de ces soldats.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal et auteur, entre autres, de In Absentia et Évacuation. Bonne journée à vous, à très vite.